Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Grenoble est une ville combative, aux contours politiques multiples, riche d'histoires de luttes victorieuses et complexes. Une ville nouvelle du XXe siècle que la bourgeoisie classique n'a pas pu pénétrer dans les profondeurs. Elle possède par conséquent un fort héritage ouvrier. Grenoble s'est aussi construite avec une immigration italienne, puis maghrébine, qui s'imprime aujourd'hui dans l'ambiance de la ville. Grenoble est enfin une cité faite de nombreuses expérimentations sociales et politiques. Des villes neuves des années 70 aux mouvances libertaires et féministes du début du XXIe siècle et imprégnées d'un tissu associatif historiquement dynamique. Grenoble est donc une ville atypique, rebelle en certains points, où foisonnent des vies et des initiatives qui débordent du cadre métropolitain imposé dans les villes modernes. En bref, Grenoble est tout ce que déteste l'ordre.
Je suis un éphémère et point trop mécontent, citoyen d'une métropole crue moderne, parce que tout goût connu a été éludé dans les ameublements et l'extérieur des maisons aussi bien que dans le plan de la ville. Ici, vous ne signaleriez les traces d'aucun monument de superstition. La morale et la langue sont réduites à leur plus simple expression, enfin. Ces millions de gens qui n'ont pas besoin de se connaître amènent si pareillement l'éducation, le métier et la vieillesse, que ce cours de vie doit être plusieurs fois moins long que ce qu'une statistique folle trouve pour les peuples du continent. Aussi, comme, de ma fenêtre, je vois des spectres nouveaux roulant à travers l'épaisse et éternelle fumée de charbon, notre ombre des bois, notre nuit d'été, des érinies nouvelles devant mon cottage, qui est ma patrie et tout mon cœur, puisque tout ici ressemble à ceci, la mort sans pleurs, notre active fille et servante, un amour désespéré et un joli crime piolant dans la boue de la rue.
Salut, bienvenue donc dans cette émission de Vacarme en Réunion. Aujourd'hui, on parle de Grenoble, mais pas que, de ce qui s'y passe et de tout ce qui s'y construit. Et on accueille pour cela Clément. Bonjour Clément.
Bonjour.
On accueille également Rachel. Bonjour Rachel.
Bonjour.
Et on accueille aussi Mi-Julia. Bonjour Mi-Julia.
Bonjour.
Daphné, tu es aussi avec nous et tu vas permettre un peu de diriger aussi cette émission.
Parfaitement, je suis là pour la direction de l'émission. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler, mais...
Voilà. On voulait commencer donc par un espèce de panneau général, enfin une plongée un peu, ou un survol plutôt de Grenoble. Et de ce qu'est cette ville, de ce qu'elle a été, enfin voilà, de son histoire. Et...
Oui, puisque ça tombe plutôt bien, puisque vous êtes grenoblois.
Tout à fait.
Et même aussi grenobloise. et vous venez d'un centre social Tchoukar, qui s'appelle le 38, et qui est à Grenoble. Et vous venez aussi de sortir un texte qui s'appelle Grenoble, laboratoire de l'ensauvagement, et c'est ce que j'ai lu en tout début d'émission. Donc voilà, c'est l'introduction de ce texte que je viens de lire et qui est un texte qui refait une mise en perspective un peu historique de la situation politique de Grenoble. Et du coup, on voulait commencer cette émission par un petit résumé de ce texte.
Alors pour l'histoire, le titre de ce texte est une référence à un texte qui est paru dans Valeurs Actuelles, qui est une revue d'extrême droite sinistrement fameuse. Qui avait fait un article de 4 pages qui s'appelait Grenoble laboratoire de l'ensauvagement et qui parlait de tout ce qui pour le coup dérange les esprits bien rangés des fascistes de tous bords et qui parlait notamment du centre social qu'on tient à quelques-uns et c'était une espèce de petite de petit pied de nez que de réutiliser ce titre. En gros, Grenoble, c'est un peu une espèce de ville qui n'est pas vraiment une ville historique qui a plusieurs siècles comme ont beaucoup de grandes métropoles en Occident, mais qui est plutôt une ville qui a été construite au XXe siècle et qui a beaucoup été construite par, par des vagues successives d'immigration, dont le quartier Saint-Bruno où on habite en est un peu le premier quartier de primo-arrivants. Ce qui, du coup, l'a ancré comme plutôt un quartier immigré, au contraire des autres qui n'ont pas connu les vagues successives d'immigration, mais qu'on en connu une, puis qui après sont restés le quartier sans bourgeoisie, etc. Et du coup, en ça, ça fait que le truc un peu spécial, c'est qu'il n'y a pas vraiment, comme dans plein de villes, comme notamment à Dijon, une espèce de vieille aristocratie qui est propriétaire foncière de la majeure partie de la ville. Et du coup, le pouvoir, il se déplace à certains endroits et il n'est pas ancré forcément dans un truc purement, enfin, je sais pas comment dire, comme dans la plupart des villes où la maîtrise du foncier, ça reste un énorme enjeu. Et ben là, il y a quelque chose d'un peu différent. Et notamment, c'est aussi dans ce cadre-là, enfin, lié à toute une histoire liée à les vagues successives d'immigration, une histoire progressiste assez forte, notamment sur la deuxième moitié du XXe siècle, etc., qui fait qu'il y a une espèce de tension où on vit dans une ville où le pouvoir politique et économique est plutôt dans les mains d'une espèce de gauche caviar un peu étrange qui a mené au pouvoir une gauche qui s'auto-étiquette gauche radicale, qui est une composition verte, insoumise, gens du monde associatif, qui a créé au moment de son élection en 2014 des remous si terribles que même... une partie des anarchistes locaux qui sont quand même très nombreux, même appelés à voter pour ce maire contre vents et marées idéologiques. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on vit dans cette ville-là et qu'on fait face à en fait des nouvelles formes de gouvernementalité qui sont peut-être le monde qui nous attend demain généralement et pas que à Grenoble. Enfin, c'est en ça aussi que c'est très intéressant. Et du coup, il y a un peu une partie de ça qui est décrit dans ce long texte, qui aussi décrit comment ce pouvoir-là, pris dans plein de formes de tourments qui sont liés à l'exercice du pouvoir, qui sont le fait de vouloir respecter absolument tous les habitants de la ville et de pas cliver, du coup aussi d'écouter les réacs, les gens de droite, machin, dans la pression que subit cette mairie par... les autres formes de pouvoir public qui s'inscrivent dans une ville, comme notamment là c'est beaucoup la préfecture, du coup le relais de l'État, etc. De comment ces pressions-là et la manière qu'a cette mairie d'y céder créent une espèce de situation où en fait on n'a pas particulièrement le sentiment de vivre dans une ville de gauche avec ces valeurs-là qui seraient vraiment prônées, etc. En tout cas particulièrement au niveau des luttes locales. Du coup, il y a une énorme partie de ce texte qui est un récit des différentes saloperies qu'ont pu faire préfecture et mairie, dont certaines sont assez sauvages. Je pense, l'exemple le plus parlant de trucs assez dégueulasses, c'est que dans les histoires de lutte grenobloise, l'espèce de truc très parlant pour plein de gens, notamment dans les mondes libertaires, c'était l'occupation du parc Mistral contre la construction du stade de foot, qui est aujourd'hui le stade des Alpes, en 2003. Et derrière ce stade qui est depuis construit, il y avait un espèce d'immense camp plutôt de gens venant d'Europe de l'Est, du coup sur un territoire municipal. Et la mairie avait été déboutée, je ne sais plus, je crois que c'est par la Cour européenne des droits de l'homme, mais je ne suis plus très sûr, parce qu'en gros ils n'avaient pas de solution de relogement, c'était des gens qui devaient loger, machin, ils avaient été déboutés, ils n'avaient pas pu lancer de procédure d'expulsion sur ce terrain. Et c'était un peu un espèce de sujet... médiatique nationale dont s'est aussi emparée une partie de l'extrême droite nationale, déjà médiatiquement mais aussi physiquement, c'est-à-dire qu'il y a un samedi soir où il y a des fascistes qui sont venus lancer des cocktails Molotov sur ce camp. Et le lundi suivant, le camp a été expulsé par mairie et préfecture conjointement en utilisant ce trouble à l'ordre public comme prétexte à l'expulsion. Il y a aussi la signature de la mairie sur ce truc-là. Et c'est-à-dire que c'est assez symptomatique de comment à un moment donné... Je sais pas comment ça se passe, s'ils sont pris au piège ou si c'est vraiment des gros connards ou je sais pas, enfin peut-être c'est pas très intéressant de savoir pourquoi, mais en tout cas le résultat est que ils font une espèce d'immense saloperie. En gros ils donnent raison aux fascistes qui sont venus attaquer des gens qui ont nulle part où vivre et qui plantent des tentes dans un parc public. En les expulsant, juste après, ça te fait attaquer physiquement à coup de coquel molotov, quoi.
Mais du coup, tu dis qu'ils soient sincères ou pas, ou alors qu'ils cèdent à des jeux politiques ou des pressions extérieures, on ne sait pas. Mais en tout cas, vous ressentez plutôt que la politique de la ville en elle-même, elle n'est pas tellement enviable, quoi, par rapport à d'autres villes, quoi. Ou qu'elle fait les mêmes saloperies qu'ailleurs.
Oui, c'est ça. Dans la même veine, il y a eu le tollé autour de la fermeture de bibliothèques dans des quartiers populaires parce que il y a eu cette coupe budgétaire des collectivités et que alors même qu'il y avait d'autres manières de économiser quoi, ils ont quand même choisi de faire ça et de fermer plusieurs bibliothèques alors qu'il y avait une lutte des bibliothécaires. Enfin voilà, ils étaient tout le temps là, elles étaient tout le temps là au conseil municipal. Enfin, je veux dire, il y avait quand même tout le soutien, notamment même des électeurs de cette mairie qui étaient outrés de ce choix-là.
En gros, pour situer un tout petit peu plus, la mairie était menacée de mise sous tutelle par l'État il y a quelques années parce qu'une dette héritière de la municipalité précédente. Et ils ont fait un plan d'austérité où les économies étaient réalisées sur la fermeture de bibliothèques et de maisons des habitants dans les deux plus gros quartiers populaires de la ville. Face à ça, les bibliothécaires se sont organisés en collectif et ont mené une lutte qui se visibilisait notamment par des rassemblements devant chaque conseil municipal. Je crois qu'il y en a eu 11 successifs. Et elles se sont pris des lacrymos et un silence assourdissant. Et même pire, c'est-à-dire que le plan d'austérité qui a été proposé, qui a été voté, etc., a été proposé à l'ensemble du conseil municipal des gens qui ont été élus par cette mairie comme la seule solution alternative. C'est-à-dire qu'une partie des informations a été cachée à l'équipe municipale en général. Et il y a deux élus qui ont refusé de voter ce budget parce qu'ils se sont sentis non seulement arnaqués parce qu'on leur a caché des informations, mais en plus ils trouvaient ça indécent de faire ce plan d'austérité. Ils ont été exclus de l'équipe municipale parce qu'ils ont refusé ça. Il y a une espèce de je sais pas comment...
Bah, d'autorité toute puissante. Enfin, plutôt que de se saisir d'un débat, même en interne chez eux... Ils ont juste continué de tracer et plus ça va et plus les débats sont mis sous silence, moins ils reçoivent des organismes issus même, des citoyens, des syndicats. Enfin, ils sont vraiment de plus en plus à se barricader dans leurs trucs et genre on s'en fout, on applique quoi. Ce qui pourrait même être moins le cas dans d'autres municipalités, peut-être plus habituées à exercer le pouvoir ou je sais pas. Enfin, il y a beaucoup, en tout cas aussi du monde associatif, une sensation de mépris. Qui est classique plutôt de la droite ou quoi, et on pourrait se dire que les gens seraient pas reçus comme ça par une mairie gauche radicale ou je sais pas quoi là.
C'est sûr que ça semble être complètement fou qu'ils choisissent de fermer des bibliothèques pour faire des économies quoi. Enfin, ouais. Des bibliothèques municipales en plus dans des quartiers populaires, ça semble vraiment être une mesure sortie des années 80 quoi. Enfin, c'est trop bizarre, et dans une ville de droite quoi, effectivement c'est très étrange qu'une mairie de gauche. Bon, mais à part ça, ils ont l'air d'avoir un peu amélioré leur com depuis quelques temps, non? Donc ils ont un peu repris pied en tout cas sur ce qu'ils montrent à l'extérieur, c'est ça, parce qu'ils sont à la fois maintenant plutôt performants, enfin en tout cas ils essayent de l'être.
Bah, en tout cas, il y a un espèce de... J'ai l'impression que ça a toujours été le cas, mais que ça l'est de plus en plus parce qu'ils rentrent dans la deuxième partie de leur mandat où ils vont chercher à se faire réélire, et ils vont forcément chercher à se faire réélire à leur gauche. Mais en gros, ils ont une espèce de façon de transformer la réalité de ce qui se vit à leur avantage, qui passe par... pour le coup, c'est des opérations de com, de faire des choses très visibles mais très inefficaces. Et après de s'en vanter royalement absolument partout, y compris en servant de relais dans la presse nationale. Il y a eu un article dans Rue 89 qui après a essaimé dans plein d'articles nationaux il y a 2 ans, parce que la mairie de Grenoble a conventionné une maison vide pour 1 an avec 2 personnes à la rue à travers une association, etc., qui était une convention misérabiliste au possible. Ils s'en sont vantés absolument partout dans la presse, et en fait les gens après ils ont été laissés complètement au dépourvu, ils ne savaient même pas s'ils allaient pouvoir rester plus longtemps. Enfin, il y a quelque chose qui est quand même assez cynique dans la situation, où il n'y a pas du tout de sincérité dans ce qu'ils font, il n'y a que une opération de conquête politique en fait.
Qu'on pourrait rajouter là-dessus, c'est un peu par exemple des contradictions du type on va faire... essayer de trouver du coup des moyens pour faire des projets participatifs avec une espèce de vote qu'il y a chaque année. Donc l'année dernière, c'est un lieu, ça s'appelle le lieu. C'est censé accueillir des personnes qui sont à la rue, avoir une cantine. Et donc ils proposent ça. En même temps, ils disent « Ah oui, mais du coup, ça va être dans le quartier Saint-Bruno », c'est-à-dire celui où justement nous squattons un bâtiment. Et ils vont essayer de nous mettre en concurrence. Donc il y a ça, il y a exactement la même chose pour une autre pépinière d'association qui s'appelle Cap Beria, où ils mettent en compétition les associations en fonction de je sais pas, l'allégeance qu'elles font auprès de la mairie. Et donc, en même temps, on va se retrouver sur ce projet participatif, mettre en concurrence les différentes personnes. Et donc, c'est ça qui est étonnant, c'est à la fois les personnes qui ont voté pour eux, ce sont clairement un peu secteur associatif, et en même temps, sur le même tableau, ils vont essayer de les mettre en compétition et de jouer sur tous ces tableaux-là. Et du coup, par exemple, des personnes comme Le Lieu leur ont répondu que de toute façon, c'était inadmissible et qu'ils ne joueraient pas ce jeu-là, quoi. Donc nous, on a aussi des alliés et on se rend bien compte que, d'une certaine manière, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous renforce aussi. C'est-à-dire que toutes les personnes qui pouvaient être un peu susceptibles de croire à cette municipalité et à ce qu'elle pouvait offrir, on va plutôt devenir des personnes qui vont porter, enfin voilà, qui vont défendre quelque chose d'ingouvernable et qui n'aura rien à voir avec cette municipalité. Donc bon, ça crée des alliances avec la MJC, avec d'autres acteurs du quartier, quoi. Donc ça, c'est...
En fait, la liste électorale qui a remporté cette élection était un mix de deux listes, qui était la liste classique vert, écolo, machin, et une espèce de liste qui venait de la société civile, comme ils disent, qui était plutôt une liste qui venait du monde associatif. Du coup, c'est vraiment une mairie qui a été portée au pouvoir par ces gens-là et qui, au moment de son élection, a créé des clivages assez forts entre les gens qui, en gros, disaient « de toute façon, vous êtes trop cons d'y croire », et puis les gens qui étaient peut-être trop cons d'y croire d'une certaine manière, mais qui, de fait, avaient quand même une certaine forme de sincérité dans le fait de vouloir croire à quelque chose d'autre. Et derrière, cette mairie, elle a cru que, en gros, tout ce qui était un peu de gauchisant dans cette ville allait la soutenir contre vents et marées, et a pas du tout accepté la critique interne. C'est-à-dire que, par exemple, le Postillon, qui est l'espèce de journal local qui existe depuis des années et des années, qui est un journal de critique sociale, qui a pas d'appartenance politique particulière, la mairie a été éberluée de se rendre compte que ce journal allait avoir l'outrecuidance de les critiquer. Ce qui était un peu quand même complètement ridicule, en fait. C'est la base même d'un journal satirique, du coup. Voilà.
Quelque chose à Monopoly, cette ville où il n'arrivait jamais rien, où l'on appelait la police que si l'on avait perdu son chien. Il se passe quelque chose à Monopoly, cette ville nouvelle, cette ville modèle, avec ses souterrains à l'air conditionné et ses buildings de verre qui filtrent la lumière et ses banlieues chauffées à l'énergie solaire, où il n'y a plus d'été, où il n'y a plus d'hiver. Il se passe quelque chose à Monopoly, cette ville qui semblait faite pour le bonheur des hommes, vit maintenant aussi à l'heure de la terreur. On ne sort plus le soir à New York ou à Rome. Quand le soleil se couche, tout l'Occident a peur. Il se passe quelque chose à Monopoly. Il se passe quelque chose à Monopoly. Quand le soleil se couche, tout l'Occident a peur. Ouais.
aux odeurs du bistrot et au son de la place, sur un marché d'antan où les vies se font face, c'est nos cœurs que j'entends résonner au lointain, les liens tissés plus tôt et que plus rien n'éteint. De nos fières devantures, nous risquons un chemin, fait de folles aventures où rien n'est sûr demain. C'est qu'au gré des journées, de nos corps élancés, l'ami fait sa tournée, l'autre écrit ses pensées. Des rencontres hasardeuses à chaque poignée de porte, à la petite merdeuse que notre amour emporte. Saint-Bruno se dessine à chaque pli de sourire. L'avenir qu'on construit dans d'absurdes tempêtes, même parfois le fruit des affronts des gens bêtes, et l'ordre se décime aux éclats de fou rire.
C'est une, on dit une ode ou un ode, je sais plus. C'est une ode à,
une ode
à Saint-Bruno.
Tout à fait.
écrit par ta main, quoi.
Ouais, ouais, aujourd'hui.
Et même ouais, de façon spécifique pour Vacarme en Réunion, quoi.
Ouais, c'est un don.
C'est un inédit, quoi.
Comme 10 minutes, enfin, quoi.
Ouais. Ouais. Non, c'est...
Parce qu'on ne trouvait pas les bouquins de René Char, donc vous avez été obligé de...
de le remplacer. Avec humilité.
Donc c'est une ode à Saint-Bruno, qui est votre quartier, enfin le quartier dans lequel vous vivez, tous les trois.
Ouais.
Et dans lequel il y a ce centre social auquel vous participez, enfin, je sais pas, que vous tenez. Et du coup, peut-être vous pouvez nous décrire un peu c'est quoi ce quartier, quoi, parce que vous nous avez dit rapidement quelques spécificités en début d'émission, mais on peut peut-être rentrer un peu plus.
Ouais, carrément. Bah, d'autant plus que ça poursuit quand même un peu ce qu'on disait au début de l'émission sur la situation à Grenoble. C'est peut-être plus facile aussi de se représenter les choses depuis là où on habite et depuis voilà, des expériences quotidiennes et la manière dont cette mairie aussi aujourd'hui... transforme ce quartier ou enfin voilà de quelle manière elle l'attaque. Saint-Bruno, c'est un ancien faubourg ouvrier en fait qui est aujourd'hui au cœur de Grenoble, mais à l'époque était un quartier à l'extérieur des murailles de la ville bourgeoise. Et bon, sans refaire l'histoire, Clément l'a dit tout à l'heure, vague d'immigration, etc. C'est un quartier qui est populaire, très vivant, mais très prisé pour sa centralité. Il est desservi voilà, par les transports et il est surtout encerclé par des quartiers au nord de Saint-Bruno, donc juste de l'autre côté du cours Beria, un des cours qui délimite le quartier. On a le quartier d'affaires Europol, construit sous la mairie Carignan dans les années 90, avec tout ce qu'on peut imaginer, hein, le quartier d'affaires un peu à la Pardieu, moins bon, plus petit, mais juste derrière il y a la presqu'île scientifique, avec ces armées de scientifiques effrayants qui conçoivent les futures manières de contrôler nos vies de demain. Enfin, on a tout ce qu'il faut, quoi. La nanotechnologie, les puces, enfin, il y a le gros pôle Minatech de rayonnement européen. Et en fait, ces choses-là continuent d'être colonisées. Enfin, c'était un quartier sur lequel on ne pouvait pas construire parce que ça appartenait au CEA, au Centre d'énergie atomique. Mais ils sont arrangés sous la mairie PS de Destaux au début des années 2000 pour rendre ça constructible et donc rajouter des labos, des universités, etc. Il y a aussi ils espèrent qu'il y ait des habitants qui vivent là-dedans. Ils en font tout un quartier un peu du futur, enfin du futur. Nous, ça nous paraît futuriste et dégueulasse, mais enfin peut-être qu'il y a des gens qui veulent vivre là-dedans, mais bon voilà. Ce qu'on peut imaginer, architecture faramineuse, etc. Bref, inhabitable quoi. Et de l'autre côté, de la rue Ampère, sur un autre bord de Saint-Bruno. Saint-Bruno qui est assez petit, hein, on le traverse en 5 minutes à pied quoi. On a le cluster culturel avec là, il reste cette pépinière associative Caberia dont on a parlé. Donc voilà, une asso dans laquelle il y a plein d'autres assos qui font des choses assez chouettes mais qui sont eux aussi bien malmenés par la mairie actuelle qui essaye de reprendre un peu le contrôle de la suite de leur lieu. Et puis sinon on a la SMAC, la balle électrique, donc lieu de concert à 20 balles pour les jeunes, enfin oublie mon jeune, enfin bon bref, les gens qui veulent aller écouter la musique le samedi soir, et puis une pépinière de start-up. Le maire Éric Piolle était avant ingénieur chez HP, donc il continue aussi sur la lancée filière informatique, tout ça. Donc quartier dédié, culture, start-up, machin. Et puis, bon, en dessous, on a Grand Boulevard, quartier plus sud, habitation plutôt. Et sur l'autre côté, de l'autre côté de la barrière, ce qu'on appelle la barrière, où il y a le train qui passe, il y a le quartier, enfin le centre-ville bourgeois et même le quartier championnet, très bobo, ces petits cafés, ces boutiques branchées. Là-dedans, il y a Saint-Bruno, quoi. Donc Saint-Bruno, sa place, son marché populaire, son église, hein, qui fait aussi partie du... Mais bon, ces cafés, ces terrasses de cafés, avec des gens un peu qui sont pas toujours comme ceux qu'on croise au centre-ville. Et surtout, ces liens de solidarité, ces apparts pas chers, enfin voilà. Donc on a le terrain privilégié pour ce qu'on appelle le phénomène de gentrification, de processus d'embourgeoisement. Puisqu'il est beaucoup trop prisé pour le laisser aux pauvres, quoi. Voilà, ça crée plein d'offensives qui arrivent, et par les biais économiques et politiques, bien sûr, comme c'était déjà le cas avant, hein, sous toutes les municipalités, Saint-Bruno était attaqué. Et en fait, sous celle-là, sous Piolle, ça ne change pas. Et surtout, ce qui est important à faire pour eux, c'est de rendre ce quartier, qui est pour eux cosmopolite, etc., lieu de résidence, en fait, des élites économiques actuelles, de tous ces ingénieurs et chercheurs qui, en fait, travaillent juste à côté. Donc, on est vraiment sur... voilà, c'est presque... Ils sont bien contents d'avoir des boutiques exotiques, etc., de voilà, ce truc du marché, du rapport quotidien, d'aller faire ses courses à Casa Bio, d'avoir son petit pain bio et tout... tout en ayant le petit vendeur de la boucherie halal, ou je sais pas trop comment c'est dans leur tête, mais et l'école, et puis à côté, on va aller bosser en face, là où le quartier il est trop moche, mais on revient à Saint-Bruno, on y est bien, à Saint-Bruno, on y est bien, c'est sûr. Et du coup, ça, c'est marketé, entre guillemets, pour des résidents plus désirés que d'autres, en gros.
En gros, ils essayent de transformer l'histoire d'immigration, etc., en un espèce de plus-value exotique.
Voilà, pour, c'est le folklore. C'est, pour eux, c'est pas du tout problématique. C'est un élément de plus qui permet de vendre une image. Parce qu'on sait bien. Enfin, voilà, parce que la nouvelle classe dirigeante, en fait, aime penser vivre à côté de gens qui ne lui ressemblent pas. Aime voyager. D'ailleurs, il y a des gens qui comparent vivre dans un quartier populaire, parce qu'eux, ils vivent. Enfin, voilà, en fait, ils achètent il y a des petites maisons. Enfin, Saint-Bruno, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Tu peux avoir une maison avec un jardin alors que t'es en plein centre de Grenoble. Et du coup, ils achètent des trucs pas chers parce que le foncier est moins cher, ils retapent, donc il y a toute une plus-value. Et puis, ils se gargarisent de voilà, connaître leur petit épicier du coin à qui ils achètent des dates ou je sais pas quoi, et que ça leur fait penser à leur voyage en décembre, quoi. Enfin, c'est vraiment dans un rapport aussi esthétique à l'altérité. Et, bon, à la limite, peu importe, mais on sait bien que quand des gens de classes différentes vivent les uns à côté des autres, c'est pas... Enfin, leur truc de la mixité, ça marche pas, quoi. C'est pas... tout le monde va bien vivre ensemble, et... Voilà, du coup, oui, il y a des luttes qui se mettent en place. On parle de gentrification à Saint-Bruno, déjà, depuis longtemps. Hein, c'est, fin, nous, on n'est pas là depuis...
Mais parce que les offensives, elles prennent quelle forme, quoi? Parce que toi, tu... Enfin... Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que à un moment ils disent telle barre d'immeuble on la rase, on reconstruit, comme à Marseille vers la Plaine par exemple, ils sont en train de faire ça, ou tel parc pouf on le refait entièrement, ou est-ce que juste, enfin, ou est-ce que ça prend des formes un peu plus spécifiques?
En fait, ils y vont plutôt par petites touches, parce que je pense qu'ils sont assez effrayés par le soulèvement qui pourrait y avoir un peu dans ce quartier, et parce que ils ont envie de se gargariser d'être de gauche et de faire les choses correctement. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est surtout que cette nouvelle classe plus aisée qui y arrive, elle réclame une attention de la part des pouvoirs publics, une attention à ses besoins et à ses usages, qui sont de fait antagonistes avec ceux des classes populaires plus historiques habitantes de ce quartier. Et la mairie a plutôt, en fait, aussi cette classe plus aisée, c'est aussi son principal électorat, cette mairie de gauche radicale, entre guillemets.
Ouais, Saint-Bruno, c'est le quartier qui a le plus voté pour cette mairie, donc il y a beaucoup d'enjeux aussi avec ce quartier.
Et en gros, ils sont dans une espèce de dilemme de se dire, bon, bah, en fait, ces gens-là, ils ont des besoins, ils nous les transmettent, parce que aussi, ben, je sais pas, ils ont le capital culturel qui leur permet... de participer activement à des processus démocratiques, enfin des processus démocratiques instaurés par une municipalité, tout ça là. Et de fait, ça crée un espèce de déséquilibre où en fait la mairie elle arrive avec après un projet en disant, ah bah oui, mais il y a des gens qui nous ont demandé de faire ça et tout ça. Puis en fait, ils se justifient et ils se légitiment systématiquement de cette manière là. Alors que, je sais pas, ça crée des espèces de différences visibles qui, quand ces différences là leur sont montrées, ils sont en mode non, ça n'existe pas.
Ouais, c'est ça.
Vous avez un exemple de ça ?
Par exemple, on peut citer le projet de Monde la Dragonne. Il faut imaginer que la place Saint-Bruno, c'était, je ne sais pas, un parc, surtout avec une espèce d'étendue d'herbe, qui était principalement un peu le parc à chiens. Bon,
ça,
voilà.
C'est le budget participatif.
Ouais, c'est le budget participatif, mais c'est quand même le lobby citoyenniste de Saint-Bruno citoyen. Oui. Qui est vraiment QE chemise quand on parle de concertation tout à l'heure avec les réunions publiques, c'est ces acteurs-là en fait qui vont venir à cette réunion et proposer dans le budget participatif justement de faire ce jeu pour enfants, donc voilà, qui finalement s'intègre dans le paysage et on va dire permet aux parents d'aller du marché, de déposer leurs enfants et tout ça. Et finalement, aujourd'hui, la forme qu'il a, on ne peut pas complètement le critiquer parce que, de fait, il a été utile dans le paysage et, en fait, bon, il a créé d'autres usages, mais il y a beaucoup d'enfants différents qui viennent y jouer, quoi. Après, par contre, dans la manière dont ça s'est fait et dans ce qu'a dit Clément juste avant, ça illustre complètement ça, c'est-à-dire un petit noyau, un petit lobby citoyenniste qui va se gargariser de la concertation, y participer, et ça donne du crédit à la municipalité pour dire « Ah mais oui, on écoute les habitants et tout ça », et donc ils peuvent complètement honorer leurs promesses de campagne autour de la participation des habitants d'un quartier.
Alors même que ce collectif qui s'est monté en collectif qui s'appelle Saint-Bruno Citoyen, y a des gens dans ce collectif qui parlent de reconquête de Saint-Bruno quand même. Enfin, je veux dire, leur vocabulaire, eux, on peut pas se louper, quoi. Si autant la mairie, ils oseraient jamais dire ça, ils veulent d'ailleurs jamais politiser leurs actions dans le quartier, c'est bien problématique, on peut jamais parler d'enjeux politiques ou de tri de la population qu'ils font dans les usages et dans les choses qui leur sont remontées, autant eux, c'est très clair, ils défendent leurs intérêts, c'est des propriétaires de la place, donc c'est la valeur foncière, c'est la propreté, c'est la sécurité, c'est des gens qui détestent la différence, ils ont eu des propos racistes, enfin là c'est clair quoi, enfin c'est des ennemis quoi, enfin c'est...
Et ce qu'il y a de singulier avec cette histoire de Dragon, c'est que là du coup dans les prochaines semaines va y avoir un projet de réaménagement de la place Saint-Bruno qui est plutôt un projet relativement à la marge, qu'il y a eu une contestation, ils ont évincé une partie de ce qu'ils projetaient parce que la contestation leur a fait peur, etc. Mais en tout cas le storytelling qu'ils ont créé pour justifier ce réaménagement, c'est toute une histoire autour de cette dragonne justement qui est là depuis 3 ans en fait, alors qu'il y a des gens qui sont là depuis des générations et des générations et qui ne font pas partie de l'histoire qui est racontée par la municipalité quand elle valide ce projet. Et en fait ils disent qu'en fait ils mettent des bancs là parce qu'en fait c'est la dragonne qui déploie ses ailes ou qu'elle a semé ses œufs et que en fait elle a ouvert un passage quelque part pour pouvoir se dissiper, pour pouvoir aller ailleurs. Et en fait ils légitiment ce qu'ils vont faire en créant du discours autour d'une histoire qui est complètement superficielle et complètement surtout artificielle, créée par de toutes pièces par un lobby réactionnaire. Mmh. Et il y a quelque chose qui
et
est...
Et des techniciennes derrière leurs écrans dans un bureau de la mairie, quoi. Enfin...
Qui te parle de mobilier ovoïde et de trames paysagères. Enfin, en fait, on n'y comprend rien.
Ouais. C'est vraiment drôle, quoi.
Et dans la même lignée, il y a vraiment, enfin, je pense que tu peux peut-être expliquer un peu le règlement du marché. On peut dire que un peu les, notamment dans ce qui a été pensé par la mairie, il y avait notamment ça, quoi, comme intervention. C'était la réglementation du marché et le fait de, d'une certaine manière, essayer de diviser leur projet en deux pour, tu vois, passer à terme par petites touches pour que ce soit moins visible et qu'il n'y ait pas justement de, je sais pas, de personnes qui se rassemblent et qui s'opposent à leur pouvoir et à leur projet, quoi.
Du coup, ce dont parle Julia, c'est c'est vrai que c'est un bon exemple du morcellement parce que il y a eu un changement des règlements des marchés de Grenoble, donc ça s'applique pas qu'à Saint-Bruno, ça s'applique à tous les marchés de Grenoble, mais le marché de Saint-Bruno est assez spécifique parce que c'est le seul marché 100%, enfin. En tout cas, majorité de produits manufacturés, des bonnes affaires, quoi. Et sinon, c'est des revendeurs, donc c'est pas des produits locaux. Comme, en fait, on a un marché bio et local à 200 mètres. Donc, je veux dire, les bobos sont pas non plus perdus, quoi, à Saint-Bruno. Quand ils ont changé le règlement du marché, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est assez technique, mais en gros... C'est remettre du contrôle du service qui s'occupe de ça à la mairie sur comment ça fonctionne, enlever une forme d'auto-organisation des forains leur demander d'afficher l'origine de leurs produits aussi, leur titre, je sais pas, dans leur truc de chambre des commerces et tout. Et peut-être, alors eux ils disent se demander ensemble un peu qu'est-ce qu'on voudrait pour ce marché, voilà, bah, si le boucher s'en va, qui c'est qu'on remplace et tout, mais en gros c'est sélectionner les prochains forains, sélectionner, faire, commencer à faire du tri et avoir une maîtrise des produits qui sont offerts sur les marchés. Et en fait, à Saint-Bruno, il y a eu, les forains en général à Grenoble se sont pas mal soulevés, mais il y avait vraiment une lutte des forains à Saint-Bruno. Plus particulièrement, parce que ça les attaquait plus particulièrement eux, ils avaient un fonctionnement qui est comme ça depuis des années, et puis ils se sont heurtés, comme beaucoup de personnes, au mépris de la mairie, à des propos, enfin il y avait aussi des choses qui permettaient pas, notamment aux forains gitans, de pouvoir, enfin il y avait des trucs autour de je bosse 6 mois, mais je peux retrouver ma place quand je pars 6 mois, enfin des forains non sédentaires, voilà, qui ont dû se battre pour faire, pour intégrer leurs propres pratiques dans le nouveau règlement, etc. La mairie a fini par appliquer un règlement spécifique, enfin un peu pas un règlement, mais ils ont donné plus de temps à tout le monde, et ils ont fait un petit bonus pour Saint-Bruno en appelant un cabinet d'expertise pour faire un peu pour parler avec les forains, pour parler avec soi-disant les habitants, pour parler avec les commerçants de la place, pour un peu prendre l'avis des gens et aboutir à un audit, quoi, pour dire qu'est-ce qu'on veut pour le marché Saint-Bruno, etc. Et donc ils ont, comme dit Julia, séparé les personnes, ils ont d'abord pris les forains, ensuite les commerçants, ensuite les habitants, c'était simplement l'union de quartier et Saint-Bruno Citoyen, ce collectif REAC, pour s'exprimer sur le marché Saint-Bruno, qui est non seulement à l'échelle de l'agglomération, c'est, enfin je veux dire, ça dépasse complètement juste Saint-Bruno, mais en plus pour le quartier, c'est le cœur du quartier, quoi. Donc t'as ces petites personnes, quoi, on était 15, moi j'y étais parce que je suis aussi à l'union de quartier, dans une salle avec des gens qui connaissent rien à notre vie, qui connaissent rien à ce qui se passe ici, qui sont payés des milliers de cents pour venir prendre des avis avec des vieux post-it, enfin la situation absurde, quoi, enfin l'union de quartier leur a bien soulevé que c'était pas du tout comme ça que ça fonctionne, etc. Tout ça pour se rendre compte que les forains ont pas envie que le marché y change, etc. Enfin, je veux dire, les choses, ils essayent de les faire passer par un biais, ça marche pas, c'est pas grave, on va y aller comme ça, mais toujours, enfin, encore une fois, ces moments-là, nous, on leur disait, mais est-ce que vous voulez pas qu'on discute de c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir de ce quartier, en fait, nous, on a plein de propositions, etc. Mais non, on parle pas de ça, quoi, c'est toujours... Non, mais dites-nous, voilà, il y avait un tableau avec à gauche le marché Saint-Bruno, c'est quoi pour vous aujourd'hui, et puis c'est quoi pour vous demain, tu sais, t'es là, mais attends...
Mais voilà, c'est une manière de gouvernance, d'amener ce bout de quartier qui a l'air d'être, dans ce que vous en décrivez, un quartier qui est un peu le dernier, qui n'a pas été colonisé par cet esprit d'innovation, de l'amener au 21e siècle.
Quoi. Exactement,
et donc, c'est
de le faire entrer dans la métropole, en fait.
Sauf d'une manière douce, quoi, c'est-à-dire de manière gauche radicale, quoi. C'est un peu ça, là.
En fait, il y a aussi un truc que je trouve qui est intéressant, c'est que là, dans leur projet de réaménagement, ils vont créer une espèce de placette qui est en gros entre les deux parties de cette place, entre le square et le marché, où ils disent qu'ils veulent créer des espèces d'événements exceptionnels pour valoriser le marché. Du coup, le seul exemple qu'ils ont cité, c'est de mettre un producteur de miel bio. Alors, il n'y a pas de producteur sur ce marché, du coup, c'est assez étrange. Mais... et en tout cas... c'est assez symptomatique de le fait qu'ils saisissent pas l'essence de ce marché parce que en fait ils ne comprennent pas qu'une partie des forains refuse l'opportunité économique qui leur est amenée par la gentrification du quartier. Et ça fait que ça bute, et c'est ça qui fait qu'il y a un espèce de frein à la transformation de ce quartier, c'est qu'il y a des gens qui refusent de profiter économiquement de ça, alors que c'est l'argument béton de la gentrification, qui n'est pas en gros il y a les gentrifiés, les gentrifieurs et les gentrifiés s'en vont, machin, il y a une partie de ça, mais il y a aussi ça casse en deux chaque individu qui peut faire un choix politique entre soit se saisir de l'opportunité pour en gros s'enrichir, soit juste partir ou refuser.
Thank you. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts. T'as un gribord de bombardier. J'vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà le bal m'en baissé sur le palier. Comme autre tu mets au, j'suis médaillé. Pas mon os négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très sale. T'as à l'âge, j'vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Pour mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. J'suis devant un plat de thieboudienne. Même noir j'pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie descendez là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Serre-moi un shot de Mandela. Africa tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Pour mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R. J'ai fait ce qu'il fallait, fallait. Sénégal, DKR, génération boule, fallait, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moulin l'a poussé à tailler, tailler. Passe-moi les masses à Mamakosa, FLO, Mara, Salvatrocha. Oh, négro n'a pas vraiment de shot. Le boule est plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Hypercute de gauche à droite. Tyson Gribord de bombardier. J'vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré. Elle a gâté le haut. Première roue arrière et des mers. J'ai changé le port. Je suis pirate donc loup de mer. Je peux te montrer les crocs.